Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francis, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, plus de 4000 personnes détenues pour des délits jugés mineurs vont bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres mercredi. Les détails avec Nani Talani.
Le communiqué du Conseil des ministres précise qu'il s'agit d'un acte de clémence et de pardon qui concerne 4200 des quelque 19000 prisonniers. Cette grâce ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement, ni l'arrêt de condamnation. Ces mesures coïncident avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui dénonce une surpopulation carcérale, la vétusté des bâtiments, le manque de moyens et l'absence d'une logistique adéquate. Les gardiens de prison réclament aussi des meilleures primes. Au regard des injustices subies par le personnel pénitentiaire, nous en appelons à l'arbitrage du président de la République, voire organiser des états généraux de l'administration pénitentiaire, déclare Stéphane Kouadio-Boko, un syndicaliste. Cette année, c'est la deuxième fois que des prisonniers bénéficient d'une amnistie en Côte d'Ivoire.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition exhorte la population à boycotter le recensement électoral censé démarrer le 1er octobre en vue des élections législatives et locales. Un appel lancé mercredi. Le point avec Joël Zima de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa qui séjourne en ce moment à Washington.
Les élections locales et un référendum sont prévues le 16 décembre au Togo. Les législatives doivent suivre le 20 décembre, comme cela a été proposé par la feuille de route des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue de plusieurs mois d'un difficile dialogue entre pouvoir et opposition. Nous demandons aux populations de se mettre à l'écart du recensement électoral qui commence le 1er octobre car ce sera une mascarade. On ne participera au recensement que lorsque les choses se feront dans les normes, a déclaré lors d'une conférence de presse Brigitte Adjamabgo Johnson, coordonnatrice de la coalition. L'opposition exige notamment que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante soit reconstitué après l'entente trouvée le 23 septembre avec le parti au pouvoir sous l'égide de la CDAO. Elle réclame également que tous les travaux entamés par la CENI jusque-là soient repris à zéro.
La lutte contre les djihadistes en Afrique subsaharienne maintenant. Au Nigeria, l'armée a repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram mercredi contre une base militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont confirmé plusieurs sources sécuritaires aujourd'hui. L'incursion attribuée à la faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique a visé la ville de Gajgar dans le district de Mobar. Et elle est la dernière d'une série d'offensives contre les positions de l'armée nigériane dans le nord-est. Reste, qui soulève de nombreuses questions sur la réelle capacité de nuisance de Boko Haram, malgré les déclarations officielles d'Abuja, selon lesquelles le groupe djihadiste est en passe d'être vaincu. Les militaires nigériens disent avoir mis en déroute les assaillants à Gajgar, mais aucune information n'a été communiquée sur le bilan des affrontements. Au total, au moins 9 bases militaires ont été attaquées depuis le mois de juillet, principalement dans le nord de l'état de Borno, près du lac Tchad. Au Burkina Faso, la multiplication des attaques terroristes dans le nord frontalier du Mali et du Niger, et aussi dans l'est du pays, soulève de plus en plus de questions sur la capacité des forces de sécurité à défendre le territoire national. Les détails avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso, longtemps à l'abri, est entré dans un cycle de violence qui s'accélère avec des attaques incessantes et des zones d'insécurité de plus en plus grandes. Attaques, enlèvements, explosions, il ne se passe plus une semaine sans que les djihadistes présumés ne fassent parler la poudre. Mercredi, 8 soldats ont perdu la vie en sautant sur un engin explosif artisanal dans le nord près de Djibo. Dimanche, 3 gendarmes ont été tués après l'enlèvement d'un Indien, d'un Sud-Africain et d'un Burkinabé travaillant dans la mine d'or d'Inata. Une double attaque dans des villages a fait 9 morts dans l'Est le 15 septembre et la nouvelle explosion d'un engin artisanal a coûté la vie à 2 soldats le 5 de ce mois. Le mois d'août a déjà été sanglant avec 13 personnes tuées par l'explosion de 2 mines artisanales ainsi que la mort d'un douanier dans une autre attaque. Hier mercredi, l'AFP a écrit que, je cite, « l'armée a perdu pied, incapable d'enrayer la spirale malgré des déclarations volontaristes ». mais sans effet du président Roch Marc Christian Kabore pour Bakary Samr, directeur du Timbuktu Institute. Après le Nord, si l'Est est pris, il y a risque de débordement vers des pays qui étaient très éloignés de l'épicentre, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso constitue un verrou entre le Sahel et les pays côtiers dans la lutte contre le terrorisme. S'il saute, ses voisins seront atteints, a averti le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le discours du président de la RDC, Joseph Kabila, devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York. Le chef de l'État congolais y a réclamé une nouvelle fois le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays après 20 ans de mission sur place. Une demande pressante alors que les élections doivent se tenir le 23 décembre en RDC. Pour une analyse, Eddie Isango a joué le coordonnateur du CODHOD, Comité des droits de l'homme et du développement, Alphonse Longuango.
La force des Nations Unies était venue pour stabiliser les pays et c'était au moment où le pays était divisé en quatre parties et occupé par des forces rebelles. Aujourd'hui, c'est quand même une mission qui coûte extrêmement cher. Il faut voir aussi dans le contexte actuel des élections, est-ce que c'est le temps de pouvoir les demander? À mon avis, c'est non. Il faut d'abord que les élections puissent avoir lieu et qu'on ait effectivement des institutions en place qui pourront assumer les responsabilités de pouvoir pacifier les pays. Et à ce moment-là, il y aura effectivement le passage des forces entre les forces des Nations Unies et les forces nationales et l'armée nationale.
Mais les groupes rebelles ont toujours été là et n'ont jamais été éradiqués. En 20 ans, la mission des Nations Unies n'a pas réussi à les éradiquer. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a une vingtaine de personnes qui ont été massacrées, même à Beni, où il y a des soins qui sont prodigués aux personnes souffrant d'Ebola.
Oui, c'est la question qui fâche aujourd'hui le peuple congolais de manière générale. Ça veut dire que il faut voir aujourd'hui, est-ce que les forces des Nations Unies en RDC sont venues combattre les forces négatives, ça signifie les ADF, les Mai Mai et les autres. Alors, si on dit par oui, on pourra dire que bon, ils ont échoué. Mais si cette mission revient aux forces armées de la République démocratique du Congo, à ce moment-là, quel est le mécanisme de collaboration entre les deux forces qui existent aujourd'hui? Est-ce que les forces de MONUSCO aujourd'hui ont refusé d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour pouvoir combattre les forces négatives? Quels sont les moyens mis en place? Je pense que c'est autant de questions à évaluer pour pouvoir prendre une décision responsable.
Dans le même temps, le président Joseph Kabila a demandé que les moyens soient dotés aux Nations Unies pour qu'elles deviennent plus effectives. Pensez-vous que sa mission en RDC n'a pas suffisamment de mandats pour combattre ces groupes armés?
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de clarifier la mission, l'objectif de cette mission aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Nations Unies manquent de moyens.
Parlant des forces ou des mandats de la mission des Nations Unies au Congo, elle est passée de l'ONU à la MONUC et de la MONUC à la MONUSCO avec des mandats renforcés chaque fois.
Pacifier le pays ou stabiliser le pays, stabiliser le pays sur quelle base? Je crois que c'est aussi le fait que l'objectif a été mal fixé, qu'aujourd'hui les résultats restent mitigés.
Alphonse Longuango, coordinateur du CODHOD, Comité des droits de l'homme et du développement à Kinshasa en RDC. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a dans une conférence de presse hier à New York accusé ses adversaires démocrates d'avoir lancé un effort concerté pour soulever des attaques de méconduite sexuelle contre le juge Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême des États-Unis. Ce dernier, qui démarre et parle de campagne de dénigrement, fait maintenant face aux accusations de cinq femmes. La première, Christine Blasey Ford, qui dit avoir été victime d'agressions sexuelles dans les années 1980, doit participer au aujourd'hui, tout comme M. Kavanaugh, à des audiences publiques de la commission judiciaire du Sénat qui examine la nomination du juge. Plus de précision avec Abdourahmane Dia.
Donald Trump a estimé que les nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre son candidat étaient fausses. Il a aussi attaqué l'avocat qui les a rendues publiques. Dans un message sur Twitter, le président a déclaré que Michael Avenatti, qui défend déjà l'actrice de film porno Stormy Daniels, engagée dans une bataille judiciaire avec Donald Trump, est un avocat de bas étage qui n'est qu'au bon à porter de fausses accusations. Il cherche juste à attirer l'attention, poursuit le dirigeant américain.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.